À voix nue, Caroline Brouet.
Robert Bobert.
Tailleur, éducateur, potier, cinéaste, écrivain.
Quatrième épisode, des films sur mesure. Bonjour Robert Bobert.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour ce quatrième temps des À voix nue que nous faisons ensemble. C'est une immense joie et un immense honneur pour moi. Je voudrais qu'on parle dans ce quatrième temps des films, enfin de quelques-uns, parce que comme il y en a une centaine que vous avez réalisés, on ne pourra hélas pas parler de tous. Des films et de quelques rencontres, puisqu'il y a eu de très nombreuses rencontres dans votre vie, mais des rencontres, disons, déterminantes. Les films, je ferai une distinction déjà entre les films que je pourrais qualifier de personnels, qui sont des films de souvenirs, de reconstitution d'un puzzle familial, et les films sur les autres étant des artistes, des écrivains, de Pierre Reverdy à Georges Perec, de Marguerite Duras à Raymond Queneau, une bonne centaine, donc je ne vais pas pouvoir les citer tous ici, dont 50 que vous avez réalisés avec Pierre Dumayet, une des rencontres fondamentales de votre vie sur laquelle nous allons revenir. Mais avant de vous poser une question sur Pierre Dumayet, ou des questions sur Pierre Dumayet, j'aimerais vous poser une question sur les liens que vous pourriez faire entre votre premier métier de tailleur et votre quatrième métier de réalisateur, parce que dans les films, souvent, vous collez des photos les unes aux autres, vous assemblez des pièces, vous filmez vos mains en train de fabriquer le film. Alors, est-ce que vous feriez un lien entre votre métier de tailleur et le métier de réalisateur?
Alors, c'est curieux, avant que vous arriviez, j'ai relu un texte imaginaire, et qui est en même temps ce qui m'est le plus proche, c'est un dialogue avec mon arrière-grand-père, qui était ferblantier, allumeur de réverbères, la lumière dans les deux cas, et je lui fais me dire, que c'est en regardant les gens travailler, en les écoutant, qu'on apprend, et on apprend en même temps que les mains ont aussi une mémoire. Alors bien sûr, tout ça, je n'ai pas raisonné au moment où je changeais de métier à chaque fois, mais voilà, les mains, c'est très important, elles font ce qu'on leur demande, mais il faut savoir aussi leur demander d'une certaine manière. Et très certainement, je n'avais pas fait ces métiers-là, est-ce que j'aurais fait les films comme ça? Et certainement pas. Voilà, donc je me suis nourri de tout ce que j'ai fait avant. Donc, sur mesure, le mot ne vous est pas venu par hasard. Et puisque j'ai travaillé sur mesure, je me suis dit, il faut continuer quand on fait les films aussi. Et plusieurs personnes m'ont dit que j'avais assemblé comme un vêtement mes films. Voilà.
Il y a la façon de le faire, disons, physique, et puis il y a peut-être une dimension symbolique dans l'idée de faire des films comme vous pourriez rapiécer un vêtement, oui, voire le réparer. Est-ce qu'il y a une dimension de réparation dans les films que vous pouvez faire, peut-être plus les vôtres sur vous, sur votre famille, que sur les autres, quoique?
Je n'ai jamais pensé à ce mot de réparation. Mais effectivement, dans ce métier, on fait aussi des retouches. C'est important, les retouches. C'est sûrement dans les retouches qu'on voit tout ce qui est mal fait. Juste après la guerre, il y avait les tissus coûtaient très très cher. Et je me souviens que mon patron, des fois il y avait quelqu'un, un client qui venait, il avait un vêtement d'homme, et il voulait qu'on transforme ce vêtement qu'il ne mettait plus en vêtement de femme pour sa femme. Et mon patron transformait le vêtement d'homme en vêtement de femme, et personne n'aurait pu deviner que c'était un ancien vêtement. Voilà, donc tout ça est venu d'une manière inconsciente, et s'est installé en moi, et c'est comme ça que je pratique. Donc les retouches, tout ce qu'on ne réussit pas dans un scénario, on le rectifie dans le tournage, et tout ce qu'on ne réussit pas dans le tournage, on le rectifie dans le montage, et ainsi de suite.
Robert Bober, vous avez donc filmé une centaine de personnalités, des artistes, des écrivains. Et parmi cette centaine, cette bonne centaine de films, vous avez donc réalisé une cinquantaine, peut-être même 50 films, avec Pierre Dumayet. Pour les plus jeunes oreilles qui nous écoutent, Pierre Dumayet, c'était un très grand journaliste de télévision. C'est celui qui a introduit la littérature à la télévision dans les années 50, en 1953, avec cette émission « Lecture pour tous ». C'était un très grand... Alors, moi, j'aime pas le mot « intervieweur ». Alors, si ça vous ennuie pas, je vais utiliser le mot que j'aime bien à la place, qui est un mot plutôt français qui n'existe pas encore, cela dit, qui s'appelle « entretieneur ». Parce que un entretien n'est pas une interview. Un entretien, c'est au long cours, avec les silences qu'il faut, et c'est un face-à-face, et je pense que, ou un tête-à-tête, et là, je pense que ça vous parle. Donc, c'était un très grand entretieneur, Pierre Dumayet. Il a réalisé des émissions donc dans les années 50, 60, 70, 80, 90, beaucoup avec vous. Lire, c'est vivre, lire, c'est écrire, etc. Avec vous, il dit dans un ouvrage que vous avez repris, que vous aviez ensemble comme un attelage amical.
Oui, oui, oui. J'étais très content quand il a trouvé ça. Et c'est vrai parce que je vous ai dit, je rentrais à la télévision pour faire des documentaires. Et bon, donc je n'ai pas fait tout de suite des documentaires quand j'ai réalisé. Sauf que le premier, qui est un vrai documentaire sur Charlie Malherbe. Et puis on avait fait une série, on était quatre à faire une série d'émissions qui s'appelait Tous en scène. C'était une émission de variété qui a été censurée au bout de je ne sais plus quel numéro on avait fait. Il y avait un thème à chaque fois, puis là, ce thème c'était la religion. Et le directeur des programmes, je ne sais plus qui c'était, a eu la bêtise de programmer ce film qu'il n'avait pas vu vendredi saint. Mais ça a été... Le standard de Cognac a été bloqué au bout de 10 minutes parce qu'on devait filmer un curé qui faisait des claquettes avec des petites scouts. Les charlots étaient déguisés en enfants de chœur. Enfin bon, vous imaginez, chacun en a rajouté et on nous a interdit de télévision. Et quand Dumayet a appris ça, il a dit « J'aimerais bien les connaître. » Voilà. Et parmi ceux qu'il aimait bien connaître, il y avait moi. Et j'ai fait, il m'a envoyé faire avec un journaliste 2-3 documentaires. Et puis un jour, il me dit, j'aimerais faire un film avec toi, et je voudrais que tu me conseilles un livre. Alors j'ai failli tomber. Et je lui ai dit, mais je vais pas te conseiller un bouquin. T'as lu 100 fois plus que moi. Il me dit, oui, mais un livre juif. Et là, je lui ai proposé Les récits racidiques de Martha Buber. Et ça a été pour lui presque un livre de chevet. Et on a fait un film sur les récits racidiques, et puis il a été encore plus loin, un film sur le Talmud, enfin sur une phrase talmudique, parce que avec une phrase talmudique, on a fait 2 émissions, c'est-à-dire, et ça devait être le deuxième ou troisième film qu'on faisait ensemble. Il me téléphone un jour, il me dit, écoute, je suis emmerdé. Je lui dis, pourquoi t'es emmerdé? Il dit, parce que j'ai écrit un truc et je vois pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme image. Et ben, je dis, heureusement, si tu savais, t'aurais pas besoin de moi.
Oui, parce que lui écrivait et vous filmiez. Donc, oui, lui était à l'écrit, voilà. Et vous à l'image.
Il écrivait le texte. Alors, il me dit, bon, très bien. Alors, si tu sais ce qu'il faut faire, ben, tu le fais. Je m'occupe plus de ça. Moi, j'écris le texte et toi, tu filmes et on se retrouve au montage. Et au montage, donc, je faisais des choix et lui réécrivait des choses en fonction de voilà. Donc, il y avait un fil conducteur. Et ça a été comme ça. C'est la personne avec laquelle je me suis le mieux sorti. Quand on fait des films, on a 10 000 occasions de s'engueuler. Ça n'est jamais arrivé. Quand il disait, on va faire ça, et si j'étais pas d'accord, il disait, très bien, on le fait pas. Et ça marchait dans les deux sens. Voilà, c'était formidable de passer une vie de travail avec quelqu'un sans jamais s'engueuler. Donc c'était une harmonie formidable. Un jour, il m'a dit, ça y est, j'ai décidé d'être vieux. C'est très dur à entendre. Heureusement qu'il m'a dit ça au téléphone. Il dit, maintenant, il faut que tu continues sans moi. Et j'ai fait 2 films, un que j'ai appelé « Re-lecture pour tous ». Et l'autre, c'est « En revoyant lire ses livres ». Voilà, qui sont 2 hommages à Dumayet. Entre parenthèses, le premier a été diffusé 7 ans après la réalisation, après que Dumeyer soit mort.
En 2011 ?
Oui. Et le deuxième n'a jamais été diffusé. Voilà. Ça veut dire la faculté d'oubli de la télévision, alors que c'est quelqu'un qui s'est toujours remis en question. Après Le lecteur pour tous, il a fait Histoire des gens, des millions de livres écrits à la main. Lire, c'est vivre, lire et écrire, lire et relire. C'est lui qui m'a appris que la relecture, c'est très important.
Un siècle d'écrivains, il en a fait beaucoup aussi.
Et puis un siècle d'écrivains.
Et voilà. Les correspondances, donc Flaubert, Van Gogh, Dostoïevski.
Et puis également sur la peinture, également. Voilà.
Sur Ajanchinski, sur Hartung.
Voilà.
Beaucoup, beaucoup. À tel point que cette amitié, ce compagnonnage professionnel, Robert Bobert, était si important que vous lui avez écrit un livre sous forme de lettre. C'est le livre Par instant, la vie n'est pas sûre, paru en 2020. Chez POL, bien sûr. Parlez-nous de sa façon si particulière de travailler, c'est-à-dire même peut-être de poser des questions. Il avait une façon de poser des questions particulière parce que soit il en posait, soit il n'en posait pas. L'importance des silences.
Oui, bien sûr. Oui. Il dit « J'aime bien que les gens se comportent devant la caméra comme devant une page blanche. » C'est-à-dire qu'il faut laisser aux gens le temps de répondre. Et quand il sentait que quelqu'un avait encore quelque chose à dire, soit parce qu'il avait mal dit ou pas assez dit, il attendait ou il tout sautait, comme ça, et ça redémarrait. Et vous avez raison de dire « je n'ai pas posé des questions ». Il ne posait pas non plus des questions. Il avait un fil conducteur, bien évidemment, mais il savait qu'il fallait que ce soit totalement libre, parce qu'il rebondissait sur ce que la personne en face lui disait.
Il écoutait.
Et des fois, il mettait de côté complètement des questions prévues. Et moi, je me souviens, j'avais été très gêné quand je suis arrivé à la télévision en tant qu'assistant. Il y avait une caméra qui filmait la personne qui était interviewée. Et j'entends après le journaliste dire « Maintenant, on filme les questions ». Et la caméra se retournait. Et le journaliste enregistrer toutes les questions et au montage. Je ne comprenais pas, je me suis dit, mais je ne vais pas rentrer à la télévision pour faire ce genre de documentaire. Et quand j'ai commencé à travailler avec Dumeyer, donc c'était formidable parce qu'on n'a jamais travaillé comme ça. Enfin, c'était une véritable relation. Le Duras, enfin on en parlera, mais c'est tourné comme ça. Voilà.
Oui, alors bon, allons-y sur le Duras, parce que on était sur le silence et sur le fait qu'il laissait les personnalités finir leurs phrases, mais en l'occurrence, le Duras en question est un film qui commence par un silence. C'est-à-dire que Pierre Dumeyer lui dit, bon, écoutez, habituellement on commence des émissions en parlant, ben, si on commençait en se taisant et suivent, je ne sais pas, 20 secondes de silence, totalement inhabituel à la télé.
C'est unique dans l'histoire de la télévision, je crois. On n'a jamais commencé une émission, voilà. Et dit, on pourrait peut-être commencer par se taire. Ce qui est encore mieux. Et Marguerite Duras était dans son coin, elle attendait. Et sur une chose, ses pieds touchaient à peine le sol, et elle a attendu. Et puis après, au lieu de poser une question, il dit, voilà, on est à Trouville. On est au bord de la mer, on ne la voit pas d'ici, il faut se pencher à la fenêtre. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le film, je ne vais pas le faire comme j'avais prévu.
C'est intéressant que vous parliez, Robert Bobert, du temps, du fait que, par exemple, dans ce film, ce que vous avez voulu filmer, c'était le temps, parce que ce qui frappe, quand on regarde, alors cette fois, un certain nombre de vos films, ce qui frappe, c'est le temps. Mais le temps, dans les films, un temps... J'ai envie de dire, aujourd'hui, on ne ferait plus de la télévision comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est passé, ça n'existe plus. C'est vrai que ça n'existe plus, mais c'est le temps de la caméra, le temps des questions, le temps des réponses, le temps de filmer les visages, les réactions.
Oui.
Voilà, le temps, je ne peux pas dire autrement.
Le temps d'attendre.
Oui.
Oui, c'est ça. Ça m'intéressait beaucoup, ce temps. En plus, j'apprenais. Avec chaque film, j'apprenais quelque chose. Par exemple, pour Proust, avec lui aussi, j'ai appris qu'il ne fallait pas non plus raconter systématiquement les choses d'une manière chronologique. Pour Un siècle d'écrivain, par exemple, ça commençait souvent par l'endroit où l'auteur était né, et le dernier plan, c'était le cimetière. Et nous, on ne voulait pas du tout travailler comme ça. Pour Proust, par exemple, il commence par une lettre de Proust à Reynaldo Hahn, qui était son amant. Et Proust, au lieu d'écrire directement à Reynaldo Hahn, écrivait à un chien. Il avait offert un basset, qu'il avait appelé Zadig. Et il écrivait à Zadig. Il dit, mon petit Zadig, tu diras à ton maître, etc. Et je me suis dit, bon, on va montrer une image de Proust en train d'écrire, on va montrer une lettre, et puis voilà. J'ai dit non. J'ai repéré avec une documentaliste un élevage de bassets. On a été le voir. J'ai dit, est-ce que dans votre élevage de bassets, il y en a un qui peut faire ce qu'on lui demande? Il dit, en général, non. Mais il y en a un, si vous trouvez sympathique, vous pouvez passer une journée avec lui. Donc on a enlevé le basset en forêt, et je l'ai caressé, j'ai joué avec lui, et on le voyait se balader, puis je me suis mis à quatre pattes. Et l'opérateur m'a dit, il aurait fallu une deuxième caméra pour te filmer. Et le chien, comme ça, venait vers moi, et je lui parlais, et comme je m'étais mis à quatre pattes, il s'est mis aussi, il s'est allongé, il m'écoutait, et il y a la lettre dessus. Et on a l'impression qu'il comprend chaque mot. Voilà, c'est comme ça que je voulais toujours tourner. Alors, ça a été un succès, parce que les gens n'imaginaient pas du tout qu'on puisse filmer un basset à propos de Proust.
Ça veut dire, Robert Bobert, que chaque film a trouvé sa forme propre.
Oui.
Il n'y avait pas un automatisme, une façon de faire. À chaque personnalité, à chaque artiste, à chaque écrivain, vous aviez, avec Pierre Dumayet, défini une forme.
Mon plaisir, c'était ça, c'était de trouver, en tout cas d'essayer de trouver. Et le puzzle que j'ai fabriqué pour le J'accuse.
Alors, parlons de ce film-là, à la lumière de J'accuse, oui. Qui est construit comme un puzzle. On parlait du puzzle et du travail des mains. C'est un puzzle. Alors là, ce film-là vous a pris 10 ans de travail. Hein.
Oui.
C'est toute l'histoire de J'accuse et de l'affaire Dreyfus constituée sous forme de puzzle.
Ça prend 10 ans. Bon. Il avait vu des spécialistes et puis il a écrit un texte. Alors, je me trouve avec ce texte, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, il y a un tas de gens, Picard, etc., Esterhazy. Et je me suis dit, ben finalement, ce truc, c'est un puzzle. Et je demandais à une amie, Edith Dufaux, et je lui dis, voilà, il y a un journal au début du siècle qui s'appelait Le Petit Journal. Je dis, à la manière du Petit Journal, vous allez faire un très grand tableau. Et par chance, il y a en France Michel Wilson qui fait les meilleurs puzzles d'Europe. Et je lui dis, voilà, faites un puzzle, mais il faudrait que ça soit découpé d'une manière que ce soit un vrai puzzle unique. Et ce qu'elle a fait en 500 pièces. Et la première fois que j'ai monté ce puzzle, 3 heures. Et je me suis dit, ben, je vais travailler avec le son. C'est-à-dire que quand on est sur Dreyfus, on lui casse son sabre, etc., il faut qu'on entende, et qu'on reste quelques instants dessus, il faut qu'on entende clac, clac, parce que c'est un puzzle en bois. C'est que quand on se déplaçait, il y avait une partie du puzzle qui était déjà construite. Et ce qui fait que j'ai réussi à faire ce film en 1h20.
Et puis il y a Georges Perec. Georges Perec, vous lui avez consacré, avec Pierre Dumayet, un film, notamment à la vie mode d'emploi, vraiment à la relecture de la vie mode d'emploi, grand livre de Georges Perec. Georges Perec que vous avez, vous, connu en 1975, et avec qui vous avez développé, là encore, une relation toute singulière, faite d'amitié, je pense, jusqu'à sa mort en 1982. Comment l'avez-vous rencontré?
En 1975, j'avais lu un article de Jean Duvigneau dans le Nouvel Observateur qui parlait de W ou de Souvenirs d'enfance.
Autre livre de Georges Perec.
J'avais été tellement embarqué par ce film, d'autant plus que je savais que j'allais tourner un film en Pologne, et j'en parle à des amis qui me disent, bon, on connaît bien Perec, si tu veux, on fait une bouffe ensemble. Ils m'ont invité, et Perec était là, et moi je voulais lui parler timidement de W, et lui, ayant appris que j'allais tourner un film en Pologne, voulait me parler que de films que j'allais faire. Voilà. Et donc, tout de suite...
Vous aviez des choses à vous dire.
On avait des choses à se dire. Alors, je lui dis, moi, je pars dans 15 jours, 3 semaines en Pologne. Et il dit, mais tu me montres le film? Et je dis, bien sûr. Donc, je vais tourner le film. Je l'ai montré. Et puis, quand il y a eu une projection au Club 13, il est venu vers moi à la fin et il a éclaté en sanglots. Et j'étais, je savais pas quoi lui dire. Il me dit, écoute, je t'appelle demain, je vais te proposer quelque chose. Donc, on mange ensemble. Et puis, il me dit, voilà, moi, je voudrais absolument faire un film avec toi. Je sais pas sur quoi exactement, mais un film dans lequel on se rencontrera tous les deux. Il y en a forcément un de nous deux qui aura un jour une idée. Entre-temps, j'ai lu d'autres bouquins de lui. J'ai dû lui montrer un ou deux films qu'il n'avait pas vus. Jusqu'au jour où j'ai appris que Ellis Island, cette île qui a reçu 16 millions d'immigrants, était ouverte au public. Et je savais que Ellis Island, c'est une histoire familiale. J'ai demandé à ma mère, c'est là qu'elle m'a raconté que mon arrière-grand-père, dont on a parlé, avait tenté l'aventure. Il a attrapé le trachome, il a été refoulé. Je lui raconte ça. Et il me dit, écoute, faut que je réfléchisse un petit peu pour savoir comment je peux rentrer dans cette histoire. Et 48 ans après, il me téléphone, il dit, on le fait. Voilà, on a repéré en 78, et en 79, on a fait le film.
Et ce film s'intitule « Récit d'Ellis Island ». Il est constitué de deux parties. Une première partie « Trace »,
oui.
Une deuxième partie « Mémoire ». Et dans cette première partie notamment, qui est intitulée « Trace », vous suivez un guide américain qui raconte l'histoire de ce centre d'accueil pour immigrants qui a donc vu passer quelques 16 millions de personnes entre 1892 et 1924. Et dans la deuxième partie du film, Mémoire, Georges Perec pose des questions à des anciens immigrants, à des témoins
ceux
de
qui
cette
sont
histoire.
Passés par là.
Et au début du film, on entend Georges Perec dire « À Paris, quand on disait qu'on allait faire un film sur Ellis Island, l'île des larmes au sud de Manhattan, tout le monde nous demandait de quoi il s'agissait. À New York, on nous demandait pourquoi nous filmions ça ?» Et de fait, Robert Bobert, vous n'étiez pas venu chercher la même chose dans ce film-là. Et pourtant, il y avait une histoire familiale, vous nous avez raconté la vôtre,
oui,
mais lui aussi en avait une.
Oui, oui. Lui, il a écrit quelques lignes après qui racontent bien...
Vous avez un petit carnet, vous avez toujours plein de petits carnets, des livres et bien marqués sous les yeux.
Oui, voilà. Nos démarches n'étaient pas exactement les mêmes, mais elles se rejoignaient quelque part dans une interrogation commune dont nous eûmes envie d'explorer ensemble ces prolongements possibles. Ellis Island nous apparut alors comme le lieu même où venaient s'inscrire les thèmes et les mythes autour desquels s'articulait la recherche de notre identité. Voilà, donc, on n'allait pas chercher quelque chose de différent, mais ce qui nous importait, c'était qu'on pouvait se rejoindre l'un et l'autre dans cette même aventure. Et pour la première fois, il a pu décider ce que c'était pour lui être juif. Et il y a une chose que les gens ne peuvent pas remarquer, sauf ceux qui connaissent bien, c'est que Ellis Island, au début, le livre est dédié à la mémoire de Madame Kamer. C'est lui qui l'a fait. Madame Kamer est la vieille dame juive que j'avais interviewée dans Réfugiés provenant d'Allemagne. C'était pour lui une manière de faire le lien entre ces deux films. Et ce qui est curieux, c'est qu'au début, quand on a fait ce film, il y a des gens qui n'ont pas reconnu Perec, et quand on lit les biographies, il y en a eu énormément de ces années-là, ça tient en une ligne. En 1979, Georges Perec est parti faire un film à Ellis Island avec Robert Bobert, et puis on passe à autre chose. Et plus ça va, plus on se rend compte que le texte qu'il a écrit est un de ses livres les plus essentiels. Burgelin, qui a écrit un très gros essai biographique, en parle très longuement et parle de l'importance de ce film et du texte que Perec a écrit.
Film devenu texte illustré édité évidemment par POL. Robert Baubert, il faut peut-être préciser, pour ceux et celles qui l'ignorent, que Georges Perec a perdu son père, qui a été fusillé en 1940.
Oui, alors, à la guerre, je crois.
Sa mère a été déportée.
A été déportée.
À Auschwitz.
Oui.
Et qu'elle n'est pas revenue. Vous avez aussi consacré un autre film à Georges Perec, qui s'intitule En remontant la rue Villain.
Oui.
Où Georges Perec avait passé son enfance, rue qui a été ensuite détruite, qui est dans Paris. Rue qui a été ensuite détruite et que vous avez reconstituée, cette rue, à partir de photos. Encore une fois, on retrouve ce travail qui est le vôtre de reconstitution, pièce par pièce et des films sur mesure. Mais pour terminer, juste un mot, c'est Georges Perec qui vous a conseillé d'écrire.
Oui. Oui, oui.
Racontez-nous.
Et petit à petit, il connaissait mes films. Et un jour, en présentant justement ce film, Ellis Island, à Bruxelles, pour une projection, il y a eu beaucoup de projections à l'époque, et je lui dis, dis donc, j'ai une idée de nouvelle, et j'ai à peine fini de dire ça, il me dit, bah, tu l'écris. Alors je lui dis, pourquoi tu... Je lui dis, non, je te la raconte. Il me dit, alors tu ne me racontes rien, tu écris. Je lui dis, mais je ne suis pas écrivain. Il dit, mais les textes que tu écris pour tes films, je dis, oui, mais là, je suis protégé par l'image, mais sans image, je ne serai pas. Il dit, si, 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 voilà. Bon, je me suis dit, il va me faire plaisir, voilà. Et j'ai mis longtemps, j'ai continué à penser à cette nouvelle, et que j'avais entendu dire que pour se débarrasser de quelque chose, il faut l'écrire. Donc j'ai écrit une nouvelle qui fait 8 pages, et que je mets dans un tiroir, comme plein de choses, comme ça. Et très longtemps après, en rangeant des papiers, je retombe dessus, je le lis, et le temps m'a donné une distance qui a fait que je trouvais ça pas si mal que ça. Mais encore, est-ce qu'on est juge de ce qu'on fait, c'est une autre question. Donc, par Perec, j'avais connu Paul Tchaïkovski-Laurence, à qui j'ai donné ces 8 pages, mais pas pour le publier, puisque bon, si ça avait été une publication, j'aurais pas osé. Mais c'était pour avoir un avis. Et en fait, David, il me téléphone le lendemain, il dit, je veux la suite. Je ne comprenais pas comment lui savait qu'il y avait une suite, alors que moi, je pensais avoir fait un début et une fin. Et donc, il a eu raison, puisque c'est 8 pages, c'est le premier chapitre de Quoi de neuf sur la guerre.
Quoi de neuf sur la guerre, paru en 93 et prix du Livre Inter l'année suivante.
Et voilà, et qui, comme par hasard, se trouve entièrement dans un atelier où on fait des vêtements. Voilà. Donc,
la boucle est bouclée, donc, la ronde. Bouclée.
Voilà, donc tout mes livres se donnent tous la main. On retrouve des mêmes personnages d'un livre sur l'autre, etc. Même mais en racontant autre chose, voilà.
Et ça, c'est ce que nous verrons dans le dernier épisode où nous parlerons de votre écriture. À demain pour le dernier épisode Robert Baubert, l'épisode 5, Le bruit des souvenirs. Merci.
Merci à vous.
C'était À voix nue avec Robert Baubert, réalisation Louise André, prise de son Michael Simon, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.